Pour cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir
Mohamed Harkoun. Vous êtes professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne. Il y a quelques jours, vous avez participé à une soirée débat sur la laïcité à Châtellerault, soirée à laquelle participait aussi Monseigneur Rouet. Alors, Mohamed Harkoun, votre point de départ dans cette soirée a été le constat d'une ignorance institutionnalisée. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément ? Est-ce que ça veut dire que les sociétés occidentales, comme celles où l'islam est le centre de la culture, maintiennent leur peuple dans une ignorance de leur histoire ? Est-ce que c'est ça votre point de départ ?
Oui, je ne le formulerai pas comme vous venez de le faire, parce que c'est un concept qui constate ce qui se passe dans l'ordre de l'enseignement des religions et le rôle qu'on fait jouer à la religion, en particulier dans le monde musulman, depuis ce qu'on appelle la révolution islamique introduite par Khomeini en 1979 en Iran.
Oui.
Mais aussi, on peut remonter plus loin dans l'histoire. L'ignorance institutionnalisée, c'est la façon dont une communauté religieuse, quelle que soit la communauté religieuse, y compris les chrétiens,
oui,
enseigne précisément la religion. Il y a d'une part l'enseignement de l'histoire des religions par des historiens qui travaillent sur le domaine de la religion, comme ils travaillent sur le domaine de la politique, de la littérature, de la philosophie, de tout ce que la société fait dans le, a fait ou a fait dans le passé.
Oui.
Il y a des règles qui sont des règles scientifiques et qu'on appelle la critique historique.
Oui.
Du côté de la religion, on enseigne ce que la tradition a créé au cours du temps pour maintenir ce qu'on appelle la croyance orthodoxe, c'est-à-dire conforme, oui, à ce que la tradition a retenu dans la longue histoire des religions. Et la tradition, ici, ce sont, pour le christianisme, c'est la hiérarchie catholique, le magistère catholique, avec tous ceux qui y participent, les conciles, etc. Et il y a un travail de sélection au cours de l'histoire. Chaque fois qu'il y a un événement scientifique ou un événement important dans l'ordre de la connaissance, la hiérarchie se réunit. Comment va-t-on insérer ça dans la foi sans aller en dehors de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la connaissance contrôlée de la foi. C'est ça le... Alors, il y a un fossé considérable qui s'est creusé entre les deux cheminements. Entre le cheminement de l'historien et le cheminement de l'homme. Alors, dans le domaine de l'islam en particulier, bon, dans le christianisme, il y a des corrections qui sont intervenues du fait que, justement, il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup qui sont chrétiens eux-mêmes, etc. Donc, je ne confonds pas tout. Dans l'ordre de l'islam, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que la pensée en islam, la pensée critique, car il y a aussi une pensée critique, une pensée scientifique, philosophique, etc., a cessé d'être pratiquée en tant que pensée critique depuis très longtemps. Ça peut remonter jusqu'au 13e, 14e siècle. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce point important. Et donc, il y a eu une sorte de vidage de ce qui a été fait dans les premiers siècles de l'histoire de la pensée islamique, c'est-à-dire du 7e siècle jusqu'au 12e, 13e siècle, où ça, c'était très actif, très dynamique, il y avait des débats, il y avait, comme dans le christianisme. D'ailleurs, l'islam a précédé le christianisme dans cet ordre de choses. L'islam était plus avancé du 7e au 13e siècle que le christianisme. Il travaillait aussi le christianisme, surtout à partir du 11e, 12e siècle, mais pas autant que l'islam. L'islam avait pris de l'avance. Et après le 12e, ça s'est inversé. L'islam s'est arrêté. En particulier, il a ignoré totalement tout ce qui a été fait dans le domaine de la philosophie, qui a joué un rôle très important, justement, pour féconder la foi, pas pour la détruire. Mmh. Alors, l'islam a perdu ce contact. Et c'est pour cela qu'en islam, je parle de l'ignorance institutionnalisée, l'institution des ulama qui est le correspondant de la hiérarchie catholique qui contrôle la foi, ont cessé d'être orientés, d'être influencés par la dimension critique qui était représentée en particulier par une certaine pensée historique et philosophique. Et aujourd'hui, c'est pire encore. Aujourd'hui, je veux dire, depuis les années 1950, c'est-à-dire la libération des pays musulmans de la domination coloniale. Et donc, ça se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est quand même terrible. Alors, le recul va être plus préjudiciable à la connaissance de l'islam, parce que ce sont les États nouveaux qui vont décider de la façon d'enseigner la religion. Or, les États, nous les connaissons. Ce ne sont pas des historiens, ce ne sont pas des gens. Ils ne connaissent eux-mêmes pas du tout ce qui s'est passé pour l'islam. Et ils ont imposé donc une ligne très rigide de la foi orthodoxe, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, en gros, c'est cela l'institution, puisque c'est l'État qui décide, et l'État est une institution, et c'est lui qui dirige l'école, c'est lui qui dirige les programmes de l'école, c'est lui qui forme ou ne forme pas les maîtres, et les imams, qui sont les grands responsables, qui font des sermons dans les mosquées, et des sermons qui reposent justement sur un vide total de connaissances, historiques en particulier, pour savoir justement ce que je viens de résumer très brièvement.
D'accord. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle donne mondiale, on sent bien qu'il y a une tension, et vous le rappeliez, c'est encore pire aujourd'hui, entre cette capacité de ces populations qui vivent dans l'islam de se féconder avec la modernité ou de vivre en opposition. Alors comment on peut concilier sa modernité et islam aujourd'hui? À quelles conditions?
Ça, c'est toute la question de l'islam contemporain, mais aussi des religions contemporaines, parce que le judaïsme aussi, par exemple, est extrêmement affecté par le problème israélo-arabe, la création de l'État d'Israël et tout ce qui s'en est suivi de violences extrêmes, de violences insupportables et qui durent depuis 60 ans. Et cela coexiste avec la pratique religieuse juive qui est intense, qui est elle aussi liée à toute une évolution de l'attitude orthodoxe vis-à-vis de la religion. Bien sûr, chez les Juifs, il y a beaucoup d'historiens, ce sont des champions dans tous les domaines, donc il y a une certaine influence. Mais l'expression orthodoxe de la foi reste en quelque sorte indemne, malgré l'existence de grands penseurs juifs. Mmh. Ça aussi, c'est un cas qui est intéressant à analyser. Quand il est question de la foi, on laisse tomber justement cette présence intellectuelle, scientifique, culturelle, musicale, absolument exceptionnelle parmi les Juifs. Et la religion poursuit son chemin avec cette expression bien contrôlée, bien maîtrisée, d'une orthodoxie de l'expression de la foi. Dès qu'il y a orthodoxie, il y a installation d'une ignorance institutionnalisée, et l'institution-là, c'est cette mise à l'écart de la religion par rapport au progrès considérable qui existe dans le monde juif, bien sûr, comme ils existent d'ailleurs dans le monde chrétien. Voilà, ça c'est un phénomène moderne, justement. C'est l'échec de la modernité à dynamiser la vie de la religion malgré ce grand rempart de résistance que constitue ce que le Max Weber, c'est un grand sociologue allemand, appelle les gestionnaires du sacré. Les gestionnaires, c'est les gestionnaires comme on gère une grande usine où on gère une société. Eh bien, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les ulama, les docteurs de la loi, les prêtres, c'est pas Monseigneur Roué, auquel je rends hommage au passage. C'est un grand esprit. Cette surveillance de la foi par les gestionnaires du sacré n'a pas été un petit peu bousculé ou avec une intervention de la modernité, et c'est là qu'intervient la laïcité en France. Car la laïcité a fait régner la paix dans la société, alors les guerres de religion, les violences religieuses, etc., a fait régner la paix en disant la laïcité, c'est une attitude de neutralité, surtout à l'école. On a des enfants qui viennent de toutes les familles, de toutes les tendances politiques, francs-maçons, juifs, musulmans, etc. Eh bien, à l'école, on est neutre à cet égard. Donc, on ne va pas parler de ça. La neutralité se traduit par une élimination. Au lieu de se traduire par une attitude dynamique et dire ce que je viens de dire, par exemple. L'expliquer comme je viens de l'expliquer. Je n'ai attaqué personne. Et j'ai comparé ce qui se passe dans les trois, où on peut aller aussi dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans d'autres religions, je dirais la même chose.
Donc la laïcité n'a pas joué son rôle.
Et par conséquent, là, il y a un rôle de la laïcité qui a été raté. Ça ne veut pas dire que la laïcité doit être rejetée ou oubliée, pas du tout. La laïcité, pour moi, j'insiste toujours sur ça, c'est une attitude de l'esprit humain devant le problème de la connaissance, d'une part. Et si je connais quelque chose, un domaine, par exemple, je connais bien l'histoire des religions, comment je vais transmettre cette histoire des religions à l'école sans jamais porter de jugement polémique sur telle ou telle religion ? Ça, c'est de la neutralité active. Ça n'est pas de la neutralité négative. La neutralité active, c'est expliquer ce qui se passe dans la tête des hommes et des femmes qui sont les citoyens d'un pays et qui sont liés à une longue histoire. Et on regarde cette longue histoire, on l'étudie avec des outils méticuleux, comme le médecin qui fait une opération chirurgicale. Et le médecin et le chirurgien ne portent aucune espèce de jugement sur la maladie. Pourquoi tu as fait ça pour être malade ? Non. Voilà, c'est une anatomie pour expliquer comment fonctionne une société, avec, surtout quand il y a plusieurs religions qui coexistent, comme c'est le cas aujourd'hui, qui coexistent dans un même espace citoyen et qui n'arrivent pas à trouver des espaces de communication en profondeur, c'est-à-dire avec chacun une pratique de l'autocritique vis-à-vis de sa propre tradition, de sa propre manière orthodoxe d'affirmer sa religion. Et chacun accepte de dire, voilà ce qui se passe dans ma tradition, et je ne l'accepte pas, et vous faites la même chose, les autres font la même chose, et nous dégageons un espace de neutralité active et même intellectuellement dynamique. Ça, c'est absolument précieux.
Vous distinguez l'enseignement du fait religieux et la transmission de la foi de la religion.
En tant que professeur à la Sorbonne, dans une université laïque, où j'enseigne l'histoire de la pensée islamique, je n'enseigne pas l'islam. Jamais. Je ne parle pas de l'islam comme croyance, et qu'il faut faire bien sa prière, et qu'il faut aller faire le pèlerinage, et de tel et tel. Non, ça, c'est les gestionnaires du sacré. Moi, je ne suis pas le gestionnaire. Je suis l'analyste du sacré. Et le sacré est partout. Et je l'analyse chez les marxistes, léninistes, je l'analyse chez Hitler, car il a manipulé le sacré pour faire ce qu'il a fait. Vous voyez, j'élargis considérablement la problématique du religieux. Au lieu de rester neutre et dire ça, c'est l'affaire des catholiques, c'est l'affaire des protestants, des calvinistes, des luthériens, de je ne sais quoi. Non, c'est mon affaire, parce que je suis un historien. Et parce que j'enseigne à des jeunes. Et parce que je parle en public en tant que professeur. Et que je parle en public devant des adultes, des citoyens comme moi, ou que je parle à des jeunes, la laïcité, l'attitude laïque est toujours là. C'est cela la grandeur de la laïcité. Mais en France, la laïcité a été utilisée comme un appui politique pour gagner des voix et pour se faire élire. Et ça, c'est désastreux. C'est le côté absolument négatif, politiquement parlant, mais aussi j'ai souligné le côté négatif dans ce qu'on appelle la neutralité laïque. C'est une, parce que je fais bien la différence pour qu'on comprenne bien ce point, c'est une neutralité négative. Parce que j'efface à l'école toute la parole au sujet du phénomène religieux qui est un phénomène humain, qui n'a pas disparu, qui a joué un rôle considérable dans l'histoire. Nos sociétés sont pleines de références religieuses, de cultures religieuses, et aussi de dynamiques créatrices. Nous sommes ici à Saint-Savin, eh bien, l'église, etc., les lieux, et dans tout le Poitou, on voit énormément de richesses qui sont absolument liées à l'histoire du christianisme. Et nous sommes en train de les examiner avec ce regard nouveau que les sciences de l'homme et de la société nous ont enseigné pour réintroduire l'existence de la religion dans la société, mais cette existence est prise en charge d'une manière qui n'a jamais existé dans l'histoire des religions. C'est neuf. Et c'est pour cela que c'est précieux de reparler de ça, c'est-à-dire que c'est toute une question qui a été massacrée, mal gérée, voilà, c'est une mauvaise gestion qui a abouti à cette violence, parce qu'il y a de la violence entre Jérusalem et l'espace le plus violent de la Terre, Jérusalem, du fait précisément d'une coexistence sur le même espace des trois religions monothéistes dans le socle historique est le même, mais qui s'arrange pour produire ce phénomène affreux, désastreux, humiliant intellectuellement et humiliant et révoltant spirituellement et éthiquement. Vous vous rendez compte? Et ça existe depuis 60 ans sous les yeux et les regards du monde entier, et ça ne fait mal à personne. Et on continue à... Enfin, je m'excuse, personne.
C'est sans doute pas facile à vivre pour tout le monde.
Ça n'est pas facile à vivre, bien sûr. Mais qu'a-t-on fait, justement, pour initier cette approche nouvelle, féconde, libératrice, qui va vers la paix? Cette méthode est une méthode de construction de la paix à travers la formation de l'esprit humain. Mais c'est formidable.
Alors, c'est en ce sens-là que vous avez participé à tout ce travail qui a été fait autour de l'enseignement du fait religieux à l'école française.
Absolument.
Pour sortir de cette impasse.
J'ai participé à tout ce que, avec Régis Debray, par exemple, pour la création de l'Institut européen des religions. J'ai créé moi-même à Montreuil un centre civique. Ça s'appelle Centre civique. Le civisme, comment vivre la citoyenneté. En incluant toutes les religions du monde dans cet espace de citoyenneté. Je l'ai créé avec le député maire Brard, Jean-Pierre Brard, qui a été le maire de Montreuil pendant longtemps et qui vient simplement d'être remplacé. Et pour vous montrer comment fonctionne justement l'État français à cet égard, quand Madame Voynet, qui a pris la mairie de Montreuil, la première chose qu'elle a faite, c'est d'ignorer complètement et de supprimer ce centre qui a fait un travail en 5 ans absolument unique dans l'histoire de France, dans une mairie de France. Voilà comment fonctionne l'État républicain. C'est un exemple que je dis publiquement, alors que c'était un succès parce que j'ai dirigé ça dans l'esprit que je viens de vous dire. J'ai appliqué ça et j'ai eu des collègues formidables, de grands savants qui acceptent, je les invite et ils acceptent de venir à la mairie de Montreuil alors qu'ils sont au Collège de France, ils sont à l'école des hautes études, ils viennent de Suisse, ils viennent pour faire ça. Donc nous avons des collègues qui comprennent le sens de ça. Et la nouveauté de cela, de ce centre civique d'enseignement du fait religieux, c'est un moment exceptionnel dans ce domaine où l'État français républicain n'a jamais eu l'audace de s'avancer. Même après la commission de laïcité dont j'ai été membre, où j'ai défendu cette position, tous mes collègues m'ont suivi, ont compris l'importance à la fois politique, intellectuelle, scientifique pour les sciences sociales qui s'enrichissent de cette approche des choses. Eh bien, l'État français républicain, alors que j'avais mis ça comme condition pour faire une loi, j'étais contre la loi si cela n'était pas fait. Parce que d'accord pour une loi, pour sensibiliser les gens et dire attention, il faut faire attention. C'est une loi, si vous voulez, pour éveiller l'attention. Ça n'est pas pour brimer. Et pour éveiller l'attention, j'ai assorti mon vote de cette condition essentielle, parce qu'il faut créer ces espaces pour parler comme je suis en train de parler, qui est une manière absolument constructive, neuve, De créer un espace citoyen où le religieux, je ne dis pas la religion, le religieux est présent, il est pris en charge, il est compris par tous les citoyens de façon égale, sans dire vous avez une belle religion, moi j'ai une sale religion, si je puis m'exprimer ainsi.
Si je vous comprends bien, vous considérez que la laïcité actuelle en France ne permet pas cette prise en compte du fait religieux. On en revient à cette ignorance institutionnalisée.
En matière de culture, en matière de réflexion critique, en matière d'enseignement, comment enseigner? Car l'ignorance institutionnalisée est aussi en France, pas de la même façon que ce que j'ai dit pour les musulmans, mais ça existe, parce que nous sommes analphabètes. Du fait de cette neutralité négative de la laïcité qui a empêché de faire entrer la connaissance du fait religieux, c'est-à-dire comment, qu'est-ce que c'est que ce phénomène, comment il fonctionne dans les sociétés, comment le christianisme a fonctionné depuis qu'il s'est installé il y a 20 siècles, pourquoi cette séparation dans le sang des Français entre eux, qui ont fait couler du sang, dans quelles conditions, comment se fait-il que l'Église, d'une part, qui est porteuse d'une parole de paix, etc., et d'amour, et de l'autre côté, un État républicain qui jouit des Lumières, de la raison des Lumières, et il y a une raison des Lumières, qui a apporté effectivement du nouveau. Et ce sont ces deux-là qui vont s'affronter de la manière la plus cruelle. Pour générer ce que mon ami Émile Poula a expliqué dans un livre qui s'appelle « Les deux France ». Il y a deux France encore qui coexistent et qui luttent l'une contre l'autre sur un plan que je ne qualifierais pas d'intellectuel, parce que l'intellectuel, le domaine intellectuel, ne connaît pas de fracture de ce type. Et l'intellectuel réunit les choses et fait en sorte qu'on dépasse les conflits en leur donnant des ouvertures pour le futur, et non pas en s'installant dans le conflit comme on s'est installé dans le conflit en France, laïcité contre religion, contre cléricalisme, pas contre religion, contre cléricalisme, car le cléricalisme, c'est négatif.
On pourrait sans doute passer des heures à débattre. Bien sûr, j'espère
par exemple, que... On pourrait analyser les programmes que je faisais ça avec un conseil scientifique, c'est-à-dire des collègues avec moi, nous étions 6, parfois 7, et nous discutons toute l'année pour suivre les applications de ce programme, et nous faisons un programme qui est révolutionnaire par les sujets et la thématisation, c'est-à-dire les sujets et l'arrangement des sujets, comment les enseigner, à un public absolument citoyen, ouvert. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... Donc nous sommes obligés de nous mettre au niveau de ce public, comme là je parle à un public large, j'espère que je suis intelligible, que tout le monde comprend ce que je dis. Et c'est neuf, ça. C'est pas comme ce qui se passe à l'école ou comme ce qui se passe même dans les universités. Ça, ce travail-là, il est civique.
Oui, on voit bien le...
Et j'aimerais que dans les radios, comme la vôtre, par exemple, puisque vous êtes lié nécessairement au fait religieux du fait que vous êtes une radio catholique, et toutes les radios catholiques devraient, ou la télévision, la KTO, etc., eh bien, elles n'ont pas cette ouverture toujours.
Merci, professeur Harkoun, d'avoir pris ce temps pour les auditeurs de Radio Accor.